Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de ma maison, de la maison de mon père, une maison de trafic. » Donc ce message s'intitule « Comment Jésus gérait la colère ?» C'est un péché, comment Jésus peut-il se mettre en colère? Mais la colère elle-même n'est pas un péché. On lit dans Éphésiens chapitre 4 verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc on peut se mettre en colère sans péché. Et c'est ce que Jésus nous montre dans ces versets. Jean, chapitre 2, verset 12. Après cela, après quoi? Après les noces à Cana. Donc vous vous souvenez, Cana, c'est la ville d'origine de Nathanaël. À 8 km, donc 2 heures de marche, 40 minutes à cheval, 39 en vélo. De Nazareth, c'est au nord-est de Nazareth. Et vous vous souvenez, j'ai évoqué la possibilité d'une rivalité entre les deux communes, parce que Nathanaël avait dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, en dehors de la route qui mène à Cana. Et c'est à Cana que Jésus a accompli son premier miracle, quand il a changé l'eau en vin. Et avant que Nico le dise, ce n'était pas en vain. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Capernaüm, pour ceux qui ne connaissent pas la Terre Sainte, mais connaissent la Vendée, c'est une ville sur la rive nord de la mer de Galilée. Et c'est marqué, il descendit, parce qu'il y a quand même 400 mètres de différence d'altitude avec Cana. Cana se trouve à 200 mètres au-dessus du niveau de l'eau.
Mais si on est vendien, on ne comprend pas ça.
Non. Mais si, c'est comme si on partait de Saint-Michel-Mont-Mercure pour aller à Maran.
Oui. Maran n'est pas rendu.
Non, mais c'est au niveau de la mer. Capernaüm est à 200 mètres sous le niveau de la mer. Capernaüm, c'était le lieu, la ville où Jésus avait établi sa base. J'en aurais fait autant. La température annuelle moyenne est à 27 degrés. Et d'avril en novembre, la température de l'eau de la mer de Galilée ne descend pas en dessous de 20 degrés. Comment ?
C'est comme Pierriac.
Ouais, ouais, ouais. Presque. Il y est allé avec sa mère. C'est un peu étonnant parce que quelques versets plus tôt, il avait renvoyé bouler sa mère. Sa mère a dit, tiens, il y a plus de vin, allez voir Jésus. Jésus a dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi, toi et moi? Mais cette réprimande n'a pas découragé Marie de suivre son fils. Elle l'a quand même accompagné. Donc ne méprisez pas la réprimande du Seigneur. L'objectif est toujours de nous attirer plus près de lui. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Mais, désolé Stéphane, je ne prêche pas sur Marie ce matin. On va revenir au l'évangile de Jean. Verset 13, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Donc là, pareil, il monta à Jérusalem. C'était la capitale. J'ai souvent dire, même quand j'habitais à Rouen, on montait à Paris, même si on descendait vers le sud. Quand j'habitais à côté de Falaise, en Normandie, on descendait à Caen. Et au nord. Mais là, il montait à Jérusalem. La Pâque, c'est lié à une autre fête juive que vous connaissez tous. Dans l'Ancien Testament, il y a cinq livres que vous devez absolument lire, la Genèse, l'Exode. Lévitique.
Non,
et Deutéronome. On lisait qu'à 5, lisez au moins cela. C'est la fête du pain sans levain. Et pendant cette fête, les Juifs devaient s'assurer qu'il n'y avait aucun levain dans la maison. Ils fouillaient partout, ils balayaient partout pour s'assurer qu'il n'y avait aucune trace de levain. Et le levain dans la Bible, c'est symbolique du péché. Et dans ce passage, Jésus représente de façon très visuelle ce nettoyage de la maison pour empêcher, pour enlever le levain, pour enlever le péché.
Oui, je comprends.
J'entends des lumières qui s'allument. Et dans ce verset, ça parle de la Pâque des Juifs. C'est une phrase qui ne figure pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ça parle de la Pâque de l'Éternel. Mais à l'époque de Jésus, c'était devenu la Pâque des Juifs. C'était devenu un rituel. C'est devenu une tradition. Et l'Éternel ne figurait pas dans cette tradition. Une fête qui était censée rappeler le peuple de Dieu comment Dieu avait épargné leurs ancêtres de la mort, quand l'ange de la mort est passé par-dessus. L'origine du mot Pâque, c'est le mot hébreu Pessah, qui veut dire passer par-dessus, et l'ange de mort passait par-dessus les maisons qui avaient marqué les montants des portes et le linteau avec le sang de l'agneau. En Exode 12. Et c'était le moment. La Pâque, c'était un moment de jugement pour la nation d'Égypte. l'Ancien Testament, j'ai dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'images de ce qui se passe après. Et ce, comme dit mon père, les montants, les poteaux de la porte et le linteau, c'est symbolique de la croix où l'agneau de Dieu a fait couler son sang. Et le jugement qui a été porté sur l'Égypte, c'est symbolique du jugement qui va nous toucher tous. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un moment de jugement pour le monde entier. Et ceux qui ne sont pas protégés par le sang de l'agneau vont passer un mauvais moment. Mais si on est protégé par le sang de l'agneau, nous n'allons pas être affectés de la même façon, nous n'allons pas mourir. Alors, avant que Stéphane nous dise qu'on va tous mourir, je vais citer Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis. Donc quand Jésus dit en vérité, c'est que c'est important. Parce que c'est quand même le Fils de Dieu, il ne mentait pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous n'allons pas mourir. Silence, ouais. Ouais. En fait, dans la Bible, ça parle de trois morts. Trois définitions de la mort. Il y a la mort physique. Et la mort, c'est toujours une séparation. La mort physique, c'est quand notre corps physique retourne à la poussière d'où elle est venue, d'où il est venu. Et notre âme se sépare de notre corps physique. Il y a aussi la mort spirituelle, quand notre âme se sépare de Dieu. C'est le résultat de la chute dans le jardin d'Éden. Et puis il y a aussi la mort éternelle, la destination finale de tous ceux qui ne sont pas protégés par le sang de l'agneau, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et c'est une séparation éternelle avec Dieu. Donc si nous gardons la parole de Jésus, nous ne verrons jamais la mort. Ça parle de cette séparation de Dieu. L'ange de la mort ne pourra pas nous toucher si nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Donc à l'époque de Jésus, la Pâque était devenue un rituel. Est-ce que tu peux remettre le verse 13 back up? C'était devenu automatique, ça avait perdu son sens. Est-ce que c'est la même chose dans nos vies? Est-ce que venir à l'église le dimanche matin, c'est devenu un rituel? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites automatiquement le dimanche? Est-ce que vous venez pour apaiser le conjoint? Ou apaiser les parents? Ou apaiser sa propre conscience? Si c'est le cas, je dirais que c'est parce que vous avez perdu votre premier amour. On lit dans Apocalypse chapitre 2 verset 4, c'est Jésus qui écrit à l'église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, en anglais c'est « My first love », mon premier amour, c'est un feu ardent. Ce que Jésus disait à cette église à Éphèse, c'est « Il fut un temps, j'étais tout pour vous. J'étais l'amour de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un d'autre, quelque chose a pris ma place. » verset 5, le verset suivant, Jésus dit, il dit trois choses. Il dit de se rappeler, se repentir et de revenir. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Se rappeler du moment où tu étais amoureux de Jésus. Du moment où l'amour était au plus fort. Rappelle-toi de ce que tu faisais pendant ces moments-là. Se repentir, ça veut dire se retourner, changer de direction. Se retourner des choses ou des personnes qui ont pris la place de Jésus dans ta vie. Et revenir. Revenir à ces choses qui enflammeront l'amour pour Jésus de nouveau. Ces choses que tu faisais quand tu étais brûlant pour le Seigneur. Peut-être que c'était la lecture de la Bible. Reviens à la lecture de la Bible. Peut-être que tu parlais aux autres de Jésus. Reviens à cette évangélisation. Peut-être que tu priais plus. Reviens à la prière. Verset 14 de Jean 2. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et on fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.
Le commerce.
Un fouet. Il a chassé les animaux, il a renversé les tables. Je pense qu'un mot péjoratif c'est pas déplacé. Donc pourquoi il y avait les brebis, les bœufs et les pigeons? C'est de l'idolâtrie. Tout ce qu'on désire devient un dieu pour nous. Une idole, c'est ce que nous plaçons avant Dieu. Chercher à devenir riche, chercher à se marier. Chercher une promotion, un meilleur boulot. Ces choses qui nous motivent à un tel point que ça devient une passion, une force motrice, un dieu. Et ces prêtres voulaient plus d'argent pour améliorer leur train de vie. Et lorsque quelqu'un apportait un bœuf, ou une brebis, ou un pigeon pour le sacrifice, les prêtres, ils inspectaient. Et ils disaient que l'animal ne convenait pas. Trouver une faille microscopique, une toute petite tache, et la personne était obligée d'acheter un animal sur place, préapprouvé dans la cour du temple. Elle était obligée de payer jusqu'à 5 fois le prix. Les prêtres arrondissaient bien leur fin de mois. Et les changeurs de monnaie faisaient la même chose. L'argent qu'apportaient les adorateurs ne convenait pas parce qu'il y avait l'image de César dessus. Donc il fallait changer l'argent avec un taux d'échange 10 fois plus élevé qu'ailleurs. D'après
Joseph Flavius,
un historien hébreu, Caïphe, le grand prêtre à l'époque de Jésus, était millionnaire. Donc Jésus arrive au temple. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple de Dieu, le peuple que Dieu aime, se faire arnaquer. Dans la cour des gentils, cet endroit où les peuples du monde étaient censés venir apprendre qui était le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, dans cette cour des gentils, Jésus voyait ce qui s'est passé. Et donc Jésus s'est mis en colère. On trouve 4 occasions dans la Bible où Jésus s'est mis en colère. Matthieu 18, verset 6. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou un meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Il mâche pas ses mots. Hein. Il emploie des mots très forts pour décrire le sort de ceux qui scandalisent un enfant, qui empêchent un enfant de croire en lui. Marc, chapitre 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est les disciples qui ont indigné Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples empêchaient les petits-enfants de venir à lui. Jésus se fâche aussi auprès de ses disciples. Marc chapitre 3 verset 5. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Là, c'est les pharisiens qui voulaient arrêter Jésus parce que Jésus faisait des guérisons le dimanche, le samedi, le jour du sabbat. Pour les pharisiens, il fallait revenir à un autre moment. C'était pas le moment de le faire. Jésus les a regardés avec indignation. Et puis en Jean chapitre 2, passage qu'on a lu tout à l'heure, versets 15 et 16, et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc vous remarquez dans ces 4 cas, Jésus se fâche. Pourquoi? Parce que les gens empêchent les autres de venir. Ils mettent des barrières, des obstacles pour venir à sa présence. Souvent on pense que Dieu se met en colère à cause de la musique qu'on écoute, les émissions qu'on regarde à la télé, parce qu'on ne lit pas assez la Bible, parce qu'on ne prie pas assez, parce qu'on ne vient pas assez souvent à l'église. Ces choses-là l'attristent, mais ne le mettent pas en colère. Il nous aime, et il n'y a pas de condamnation pour nous. Ce qu'il met en colère, c'est les choses qui empêchent les gens de s'approcher de lui, d'entrer dans sa présence. Quand nous commençons à ériger les barrières, les obstacles qui découragent les autres de s'approcher de Jésus ou d'entrer dans la présence de Dieu, Jésus se met en colère. C'est pour ça qu'on lit au verset 15. Jésus a fait un fouet avec des cordes et il les a chassés du temple. Et le mot chasser dans le grec, c'est un mot assez fort, c'est ekbano. Que vous connaissez tous. Littéralement, ça veut dire qu'il les a jetés dehors. Il les a expulsés, il les a évincés. Jésus a expulsé ces personnes de la maison de son père. Il a évincé les gens du lieu d'adoration parce qu'ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons.
Est-ce qu'on peut imaginer tous les brebis, tous les bœufs en sortant de
libre dans la ville?
Les pigeons.
Parfois, Dieu fait la même chose dans nos vies. Si on permet à quelqu'un ou à quelque chose de créer un obstacle, de placer des barrières qui nous empêchent d'apprécier la présence de Dieu, il les expulse, il les jette dehors, il les chasse. Hébreux 12, verset 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et ça fait mal. J'en sais quelque chose. Mais c'est parce qu'il nous aime qu'il nous châtie. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous discipline. C'est parce qu'il nous aime qu'il expulse les gens de nos vies qui nous empêchent d'entrer dans sa présence. Des fois, il retourne les tables que nous avons dressées, qui nous empêchent de bénéficier d'une relation avec lui. Dans le psaume 23, au verset 5, David dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » David disait « Tu sais quoi ? Même si j'ai des ennemis, j'apprécie quand même ma communion avec toi. » Et dans cette culture de David et de Jésus, dresser une table, c'est inviter quelqu'un à manger. C'est devenir uni avec la personne. David disait, tu sais quoi, même si j'ai des ennemis, j'apprécie quand même ma relation avec toi. Le fait que je sois uni avec toi. Si souvent nous dressons une table dans nos vies, nous invitons tout le monde à part le Seigneur. Donc Jésus doit venir renverser les tables. Jean 2, verset 15, ayant fait un fouet avec les cordes. Jésus n'est pas allé avec un fouet. Jésus n'est pas allé pour se mettre en colère. Ce n'était pas son projet. Mais il s'est servi de ce qu'il a trouvé à proximité. Il a pris des petites choses pour apporter la discipline. Et souvent, Jésus se sert des petites choses à proximité pour nous discipliner. Parfois, c'est nos enfants. Parfois, c'est une remarque d'un collègue. L'autre jour, mes fils m'ont contacté pour dire qu'ils allaient venir passer 3 jours avec nous. Et j'étais ravi. Et mon petit-fils qui va venir aussi avec eux. Pas le laisser à la maison. Il a 2 mois, mon petit-fils. Okay. Et puis j'ai paniqué. Et je n'ai pas parlé à ma femme et mes parents. J'ai paniqué, pourquoi ? Parce qu'ils viennent à la fin du mois. Et contrairement aux apparences, je ne roule pas sur l'heure. Ils viennent juste avant que la solaire arrive à la banque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas pouvoir. pouvoir en profiter. Et puis vous savez quoi? Dieu m'a corrigé, il m'a envoyé un petit signe. On a reçu un remboursement à la banque, une facture de téléphonie. Vous savez de combien? 1,20€. Dieu se servit des petites choses pour nous remettre sur le bon chemin. 1,20€. Mais qu'est-ce que ça m'a enseigné? Ça m'a enseigné que tout ce que j'ai, ça vient de lui. J'ai pas à m'inquiéter.
C'est pour ça que tu as réservé un tableau à la maison.
Voilà. Pour 8 personnes.
Ouais.
1,20€. Jésus se sert des petites choses à proximité pour nous discipliner, pour nous rappeler que c'est de lui que vient toute chose. Matthieu 6, verset 31, verset 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous sommes sages, si nous sommes mûrs dans la foi, nous verrons ces petites choses comme les cordes dans la main de Jésus pour nous corriger, pour nous discipliner. Et nous dirons, d'accord Seigneur, corrige-moi, discipline-moi, rends-moi plus comme toi. Vous avez vu ce qu'il a dit au vendeur de pigeons au verset 16? Il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ça montre que même dans sa colère, Jésus est totalement au contrôle. Il avait totalement le contrôle de la situation. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, il y a quelques mois, je lisais à la maison des livres d'enfants qui racontaient les histoires de la Bible. Et il y avait une image de Jésus qui chassait les marchands du temple. Et Jésus était en mouvement avec le fouet. Et il y avait des animaux qui couraient partout, des tables qui se renversaient, l'argent qui s'envolait, les pigeons qui s'envolaient. Mais Jésus n'était pas comme un fou furieux. Il ne courait pas partout, il chassait pas. C'était pas une scène violente. Il était maître de lui. Ôtez cela d'ici. C'est quelque chose qui est dit calmement. Il est arrivé devant les vendeurs de pigeons, il s'est arrêté, il a dit, ôtez cela d'ici. Jésus, c'est l'exemple parfait de ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il avait une grande force, il avait une grande puissance, mais il n'était pas hors de contrôle. Au vendeur des pigeons, c'est une parole qui a été donnée. Plus de force a été utilisée face au changeur de monnaie en renversant les tables. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Jésus communique à chacun de façon différente. Parfois, il vient et il renverse les tables. Regarde dans la fin du verset 16. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de mafia. La maison de Dieu, c'est un endroit où on peut venir s'approcher de Dieu. Ce censé être un endroit qui empêche quelqu'un de s'approcher de Dieu. Pour parler de façon biblique, malheur aux endroits de culte qui empêchent les gens de trouver Dieu. Et voilà ce qu'était devenu ce temple. Les gens étaient au point de mépriser le sacrifice parce qu'ils voyaient comment ils étaient arnaqués par les prêtres. Donc ils n'y allaient plus. Ils étaient arnaqués par ceux qui devaient leur montrer le chemin, montrer comment adorer Dieu. Cela indignait Jésus. Donc il y a une différence entre une colère juste, et j'utilise le mot juste dans le sens biblique, pas dans le sens justice légale, et une colère injuste. Une colère juste, c'est lorsqu'on est en colère contre quelque chose qui est fait à Dieu. Une colère injuste, c'est lorsqu'on est en colère contre quelque chose fait à soi-même. Donc quelqu'un te fait un queue de poisson, une queue de poisson sur la quatre voies, c'est une colère injuste. Quelqu'un se gare à ta place, c'est une colère injuste. Une mère qui empêche le père de voir ses enfants, c'est une colère injuste. Des drag queens qui se moquent de la scène, une loi qui est passée qui autorise l'avortement jusqu'au 9e mois, c'est une colère. On a le droit de se fâcher contre ces choses-là. On n'a pas le droit de se fâcher au point d'aller faire sauter les cliniques d'avortement. Non. Restons sérieux quand même. Mais on a le droit de se mettre en colère et d'exprimer notre colère sans péché. Donc n'oublions pas ce qui met Jésus en colère. Ce n'est pas le fait d'oublier de lire la Bible. Ce n'est pas parce que nous ne passons pas assez de temps dans la prière. Oui, ça l'attriste. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez ne pas lire la Bible, vous pouvez ne pas prier. Mais ça ne lui met pas en colère. Ce qui lui met en colère, c'est les gens qui mettent des barrières, des obstacles, et qui empêchent les gens de s'approcher de lui. Et ma question ce matin, c'est: est-ce que vous avez permis à quelqu'un ou quelque chose de devenir un obstacle qui vous empêche de pleinement apprécier la présence de Dieu? N'attendez pas que Jésus fasse un fruit. Ça est arrivé dans le passé, ça fait mal. Vous avez sans doute remarqué que toutes les activités qui ont lieu le dimanche, les vide-greniers, c'est toujours le dimanche. Les rassemblements de voitures anciennes, c'est toujours le dimanche. Les manifestations sportives, c'est toujours le dimanche. Hein ? Vous savez pourquoi ? Parce que Satan sait comment empêcher les gens d'apprécier la présence de Dieu. Il viendra un jour où Jésus sortira le fouet pour nous débarrasser de ces choses. Et ça fera mal. N'attendons pas ce jour-là. Ôtez cela d'ici. Et il se peut que vous ayez un problème de colère. Dans ce cas-là, moi, le conseil que je vous donne, c'est de chercher dans la Bible tous les versets qui parlent de colère. Il y en a pas mal. Et ça ne veut pas dire que c'est pas une mauvaise idée de lire la Bible du début à la fin, mais allez sur Internet, cherchez versets Bible colère. lisez ces versets, un verset par jour. Chaque fois que vous avez la colère qui monte en vous, récitez ces versets. Et vous verrez, au fil du temps, Dieu va vous changer de l'intérieur. Mais ça commence avec une relation avec Jésus. Si vous n'en avez pas, ces versets ne feront aucune différence. Ce ne sera que la lecture du développement personnel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne dure pas. Si vous avez une relation avec Jésus, si vous avez fait de lui votre Seigneur, son Esprit Saint vient à l'intérieur et réagit face à ces versets et vous change. Et le changement vient de l'intérieur. Et donc ça va durer. Prions. Seigneur, merci pour l'exemple. D'avoir montré ton humanité, mais sans péché. Merci d'avoir montré ce qu'est une colère juste. Regardez dans nos vies ces obstacles qui sont en train de se créer.